Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, c'est une histoire de familles séparées, de fils bien-aimés disparus à jamais pour des mamans, ou encore de fratries condamnées à l'absence à cause de la géopolitique et d'une guerre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud entre 1950 et 1953 qui a conduit à la partition hermétique du pays. Bonjour, Kam Sung Jenri Kim.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous. Vous êtes notre invité chez 7 milliards de voisins. Vous habitez en Corée du Sud, sur l'île de Ganghwa, située à une cinquantaine de kilomètres de Séoul. Et on est ravis de vous accueillir à distance dans l'émission. Vous êtes auteur, dessinatrice, traductrice. Et votre dernier livre s'intitule « L'attente, une famille brisée par la partition du pays ». C'est un roman graphique, hein, en partie autobiographique. D'ailleurs, les voisins et les voisines, je vous conseille d'aller voir le diaporama des planches de dessin de Kam Sung sur notre page Facebook. Un programme de réunion familiale a été mis en place par les deux camps, Corée du Sud, Corée du Nord. Des retrouvailles entre Coréens du Sud et Coréens du Nord ont pu être organisées au fil des années, au gré de l'amélioration des relations bilatérales, surtout ces 20 dernières années. La totalité des rencontres entre les familles nord-coréennes et sud-coréennes s'est déroulée sur le sol nord-coréen sous haute surveillance. On entendra d'ailleurs aussi le reportage à Séoul de notre correspondant Nicolas Roca, qui a recueilli le témoignage d'un homme de 80 ans séparé de son frère depuis 68 ans, qui est resté de l'autre côté en Corée du Nord. Il l'a revu quelques heures il y a 3 ans. Et avec lui, c'est finalement toute une génération de l'espoir et de l'attente qui pourrait s'éteindre. En Corée du Sud, il y aurait encore près de 48 000 personnes, pour la plupart évidemment très âgées, qui attendent d'être tirées au sort pour revoir quelques heures un parent resté au nord. Souk Jandri Kim, vous êtes notre invité chez 7 milliards de voisins, vous êtes en Corée du Sud. Vous connaissez cette chanson ?
Oui, c'est en fait c'est le chanteur qui s'appelle Lee Seung-chol. Quand j'étais au lycée, je l'adorais.
Oui, oui, c'est une star incontournable en Corée du Sud.
Tout à fait, oui.
Et que disent les paroles ?
Un jour, lorsqu'on se retrouvera, on va sourire et tout ça.
Oui, alors ce jour n'est pas encore arrivé en Corée. Oui. Qu'est-ce qui a déclenché chez vous l'écriture de ce roman, en partie autobiographique ? Vous avez grandi auprès d'une maman qui ne parlait pas vraiment du passé.
Non, parce qu'en fait, surtout, la vie était très compliquée. Ici en Corée du Sud, et maman et moi, on a beaucoup de différences d'âge. Donc, d'abord, ça ne m'intéressait pas trop leur passé. Et lorsque j'étais partie en France il y a plus de 20 ans, donc, y a ma mère qui était venue après la mort de mon père en France. Mmh. pour me rendre visite. Avant, on n'avait jamais eu le temps de rester ensemble avec autant de temps. Et là, à Paris, on était restés vraiment toutes les deux. Donc, elle me racontait sa vie, elle me racontait l'histoire des grands-parents, elle m'a raconté l'histoire, ce qui s'est passé entre sa sœur qui était en Corée du Nord et tout ça. C'est à ce moment-là qu'on a, j'ai vraiment entendu cette histoire.
Que s'est-il passé exactement pour que votre maman perde la trace de sa sœur ?
Bah, en fait, à l'époque, c'était pendant l'occupation japonaise. Mon grand-père a amené avec sa femme, donc les enfants, en Corée du Nord, parce que pour trouver du travail, parce qu'en Corée du Sud, il n'y avait pas assez de travail, donc ils sont partis à Hungnam et ils travaillaient là-bas. Et au moment de la guerre, en fait, ils étaient près de Pyongyang.
Alors, au moment de la guerre, après le retrait des troupes japonaises, hein, au moment de la guerre entre 1950 et 1953, un conflit qui a duré 3 ans, qui a fait entre 3 et 4 millions de victimes, c'est énorme proportionnellement au nombre d'habitants, un bilan très lourd.
Tout à fait. Et juste avant la guerre, donc, ils ont pu descendre, mais malheureusement, ma grande tante, donc la sœur aînée de ma mère, n'a pas pu joindre la famille dans le train. Du coup, ils sont descendus en la laissant, mais ils ont tous pensé qu'ils pouvaient retourner la récupérer. Finalement, ils n'ont pas pu retourner en Corée du Nord. Oui.
Cette histoire, elle a été vécue par des centaines de milliers de Coréens. Votre maman, ensuite, s'est inscrite sur des listes pour retrouver sa sœur.
Oui, tout à fait ça. Parce qu'en fait, moi, quand j'étais donc en France, maman, elle était déjà inscrite apparemment. Elle a même fait le vidéo et tout ça, mais à chaque fois, elle n'a pas été élue pour rencontrer sa sœur.
Oui, tirée au sort. Vous avez, pour écrire votre roman graphique, bien sûr, vous vous êtes inspirée de l'histoire familiale, de ce que votre maman vous a raconté sur cette attente interminable. Vous avez également rencontré d'autres familles séparées par la guerre.
Oui, ma mère, elle a donc depuis 10 ans que je suis entrée de France donc en Corée. Et ma mère, elle a senti dernièrement, elle a senti vraiment une urgence. Je pense qu'elle est très âgée, elle a des problèmes de santé. Du coup, avant que ce soit trop tard, elle voudrait rencontrer vraiment sa sœur aînée. Et donc, moi, je me suis dit, avant que ma mère se parte pour toujours, je voulais écrire quelque chose, laisser la trace, etc. Donc j'ai décidé de rencontrer d'abord certaines personnes qui ont pu rencontrer leur famille qui sont en Corée du Nord il y a 3 ans. J'ai vu la liste grâce à un journaliste correspondant français en Corée à l'époque, et sur cette liste, j'ai téléphoné à plusieurs personnes, et il y a 2 personnes qui m'ont accepté de rencontrer. Donc je les ai rencontrées, et puis je les ai interrogées pour comment ça s'est passé, la rencontre et tout ça.
Il y a des familles qui sont inscrites sur ces fameuses listes de la Croix-Rouge, hein, je crois.
Oui, tout à fait, il y en a beaucoup.
Oui, qui sont inscrites depuis plusieurs décennies et qui attendent toujours. Quelle a été l'histoire de votre maman avec sa sœur ?
Malheureusement, en fait, ma mère, elle ne se souvient pas exactement l'adresse où ils ont vécu, parce que ce n'est pas son pays natal. Du coup, en plus, elle était très jeune.
Donc elle avait quel âge ?
Elle avait 10 ans, je crois, donc elle ne pouvait pas s'en souvenir de tout. Donc, à l'époque, sa sœur aînée est allée travailler chez quelqu'un et elle n'a pas pu rejoindre la famille pour descendre vers la Corée du Sud.
Ça veut dire que votre maman n'a finalement jamais pu retrouver la trace de sa sœur?
C'est cela, parce que le problème à l'époque, vous savez, maintenant on est sur notre temps contemporain, on a l'internet, on a le téléphone, on peut avoir la communication dans notre monde comme vous et moi. Mais à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de carte d'identité. Si on se sépare, on n'avait aucun moyen de retrouver.
Dans le roman que vous publiez, L'Attente, vous dites que les familles coincées en Corée du Nord ont très peu déménagé, ce qui rend plus facile les recherches pour les retrouver de la part des familles de Corée du Sud.
Bah, en fait, c'est une des personnes que j'ai rencontrées, c'est ce qu'il m'a dit finalement, qu'il a pu rencontrer sa famille parce que grâce à l'adresse indiquée. Parce qu'apparemment, en Corée du Nord, lorsqu'on déménage, on n'a pas vraiment. Ils doivent tout noter. Ils n'ont pas vraiment. Comment dire? Ils sont suivis. Donc, c'est assez facile lorsqu'on connaît l'adresse.
Oui, parce qu'en Corée du Nord, évidemment, on ne peut pas déménager de son plein gré. Quel est le rôle de la Croix-Rouge coréenne?
Et récemment aussi, ma mère, elle a reçu du papier. Sur la famille séparée, donc elle a dû renoter la description, le nom de sa sœur et tout ça, les enquêtes et tout. Donc ils vont avoir tous ces enregistrements ou la demande et puis ils les mettent sur le fichier. Aussi, ils enregistrent les vidéos. Ils font le prélèvement du sang, comment on peut dire ça pour...
Oui, prélèvement de l'ADN aussi peut-être.
Voilà,
ça veut dire que votre mère, malgré son grand âge, parce qu'elle a quel âge votre maman aujourd'hui? Plus de 90 ans?
Elle a 89 ans.
Oui, ça veut dire qu'elle conserve encore l'espoir peut-être de revoir sa sœur avant de mourir?
C'est cela, oui, maman, elle espère, elle pense que sa sœur, elle n'est pas morte. Parce que dans sa tête, je pense que sa sœur, elle est toujours jeune.
Oui.
Donc, comme au moment où elle s'est séparée de sa sœur, je pense que dans sa tête, elle est toujours jeune fille, et qu'elle est toujours vivante, même si elle est âgée. Du coup, elle espère vraiment, elle est pressée, elle sent une certaine urgence de la retrouver.
Dans votre roman, L'Attente, l'histoire de la séparation est très tragique puisque c'est l'histoire d'une maman qui perd son petit garçon sur la route de l'exode. Elle va conserver sa fille, mais elle va perdre son mari, le petit garçon, qui vont rester ailleurs sur la route. Ils vont se perdre de vue, ils ne se retrouveront pas. Pourquoi vous avez voulu parler du déchirement entre une mère et son fils ?
Ce qui s'est passé en vrai, ça c'est une vraie histoire. Elle a pu se retrouver le fils.
À la fin, c'est-à-dire des dizaines d'années plus tard.
Ça veut dire qu'en 2018,
la famille
dame,
qui vous a inspiré.
Elle a pu retrouver son fils perdu au moment de la fugue vers le sud. Elle a eu la chance de le retrouver malgré après 68 ans, mais beaucoup de familles qui ont perdu, qui sont encore en espoir aujourd'hui.
Oui, tout comme votre maman. Hein. Depuis 1988, je crois qu'il y a près de 133 000 Sud-Coréens qui se sont inscrits sur des listes comme votre maman pour rencontrer des parents qu'ils n'ont plus revus depuis la guerre de Corée. Et en 2019, 40% d'entre eux finalement étaient morts avant d'avoir pu retrouver l'autre partie de la famille qui est restée coincée au Nord. Vous parliez de personnes élues. En réalité, il s'agit d'un tirage au sort. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? Par exemple, alors il se trouve que pour votre maman, on n'a pas retrouvé la trace de sa sœur, mais comment ça se passe, ce fameux tirage au sort, pour que certains soient aient la possibilité de rencontrer quelques heures un membre de leur famille en Corée du Nord?
En fait, je connais pas non plus exactement, mais je me suis un peu énervée après plusieurs fois contact au Croix-Rouge en Corée du Sud, parce qu'en fait, ma mère quand même, elle est âgée, et puis sa sœur, c'est du sang direct, même si c'est pas son enfant. Donc, je pensais qu'elle aurait de la chance. Mais quand j'ai vu qu'il y a certaines familles qui se retrouvent, alors que c'est l'oncle ou c'est comment dire, cousin, etc., et je ne comprenais pas pourquoi ma mère, elle ne pourrait pas retrouver sa sœur. Donc, j'ai téléphoné plusieurs fois, j'ai contacté le Croix-Rouge. Et la probabilité, c'est, ils ont expliqué, c'est comme la loterie. Donc, ce n'est pas eux qui décident. Mais il y a la priorité d'abord, il faudrait que ce soit les personnes les plus âgées qui ont plus de la chance. Après, il y a par exemple le fils, l'enfant et les parents qui pourront avoir plus de chance aussi par rapport aux d'autres, comment dire, relations de famille.
Le lien filial est privilégié par rapport à la fratrie. Vous restez avec nous, Kim Suk-jin, Ri Kim. On reste dans les dédales à la fois de votre histoire, de votre roman graphique inspiré d'une histoire vraie, L'attente, une famille coréenne brisée par la partition du pays, et puis aussi l'histoire de votre famille, la recherche de votre maman qui cherche à retrouver sa sœur. Une pause musicale avec un peu de K-pop sud-coréenne et on se retrouve juste après. Ah, ça se reconnaît tout de suite, c'est de la K-pop sud-coréenne, Everglow. Le titre, c'est First. On a un pied en Corée aujourd'hui, chez 7 milliards de voisins sur RFI, avec notre invité Kim Suk-jenri. Kim, merci d'être avec nous en direct et à distance, puisque vous habitez sur l'île sud-coréenne de Ganghwa, qui est située à une cinquantaine de kilomètres de Séoul. Vous êtes toujours en ligne avec nous, Kim Suk.
Oui.
Vous êtes dessinatrice, vous êtes traductrice et vous avez publié votre dernier roman graphique, L'attente, une famille brisée par la partition du pays. Et vous publiez en français d'ailleurs, hein, puisque vous êtes votre propre traductrice. Et c'est l'histoire de cette famille brisée par la partition du pays, du fait de la guerre entre 1950 et 1953 qui a donné lieu à cette partition hermétique entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Alors certains parmi ces familles divisées dont on a parlé à l'instant avec vous ont eu l'opportunité de rencontrer leurs proches après des décennies passées d'un côté différent de la frontière. C'est pas le cas de votre maman pour le moment, hélas. Malgré son grand âge et elle qui conserve l'espoir de retrouver sa sœur, votre maman a 89 ans. Mais on va écouter le témoignage de Lee Soo-nam qui a rencontré son frère aîné en 2018, 68 ans après leur séparation, à l'occasion de la 21e cérémonie rassemblant les familles des deux côtés de la ligne démilitarisée, de la zone démilitarisée. Notre correspondant à Séoul, Nicolas Roca, s'est rendu chez lui en plein cœur de la capitale sud-coréenne.
안녕하세요. 저는 니콜라스 로카입니다. 프랑스 기자. 네. 네.
이 차가 방금 지나갔어요.
Ça fait longtemps que vous habitez à Itaewon?
Ben, 여기 거의.
Oui, depuis toujours.
Si vous avez grandi ici avec votre frère.
Oui, on habitait ici.
Je suis beaucoup trop grand pour passer dans la petite maison avec une petite cour intérieure. Nous entrons dans une petite pièce, vraisemblablement son bureau, avec beaucoup de photos de ses enfants et sûrement de son grand frère.
Aigo, 이게 그 속초에서 모일 때.
Une haie d'honneur pour chacun des
amis. Le journal de France 2.
Nous sommes à Sokcho, en Corée du Sud, à 50 km de la Corée.
여기 우리 집에도 왔었고 속초까지 좀 가자고 그래서.
Presque tous plus de 80 ans, la Croix-Rouge tente de
rassurer. 나도 엄청 외국 기자들이 우리 집에 엄청 왔었잖아. 난 젊기 때문에.
La dame qu'on voit à l'écran, elle a été très médiatisée car elle a pu rencontrer son fils, ce qui est très rare de nos jours. Comme beaucoup de personnes concernées sont décédées. Moi, j'ai pu retrouver mon frère et ça aussi, c'est assez unique car les liens familiaux qui existent encore sont souvent entre des cousins, des neveux et des oncles. Plus le temps passe, plus les principaux concernés décèdent.
Dans un coin de la pièce, une valise remplie de cadeaux pour son frère, aujourd'hui âgé de 86 ans.
내가 평생 우리 형님 사진 이거 두 장을 가지고 있어요.
Ça, ce sont les deux photos que j'ai gardées de mon frère. La petite photo là, c'est quand il avait 17 ans.
그때 사진이야.
Quand est-ce que vous aviez vu votre frère pour la dernière fois avant cette rencontre en 2018?
우리 형님이 19 살.
Mon frère avait 19 ans quand on a été séparés. On a été envahis par la Corée du Nord le 25 juin 1950. Après ça, leur armée a conquis Séoul en moins de 3 ou 4 jours. On était donc sous occupation ennemie. Comme vous pouvez l'imaginer, les conditions de vie durant la guerre étaient très dures. Même avec de l'argent, on ne pouvait pas acheter de nourriture. Les magasins étaient fermés. Donc mon frère est allé à Samgachi avec de l'argent, mais il n'y avait pas de nourriture. Alors il est allé en chercher ailleurs et c'est comme ça qu'on a été séparés. Il avait de l'argent et il était sur la route pour acheter à manger.
Comment est-ce qu'on fait pour grandir séparé de son frère? Et on a l'impression que pour vous c'était très important de créer ce lien vu que vous avez fait la demande plusieurs fois pour le rencontrer. C'est parce que ça a créé un manque. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie d'être séparé de votre frère?
사실 그동안에 잊고 살았어요 많이. 나도 나이가 먹어가니까 뭐 돌아가셨겠겠지 이제.
Pour être honnête, après 80 années passées sur Terre et une grande partie de ma vie sans mon grand frère, il avait quasiment disparu de ma mémoire car je le pensais mort. C'est quand j'ai su qu'il était en vie qu'une nouvelle forme de torture est apparue dans mon esprit. Mais pour mes parents, ça a été différent. Ma mère a souffert toute sa vie de ne pas savoir ce qui était arrivé à son fils aîné, s'il était vivant ou s'il était mort. Lorsque j'ai reçu un appel de la Croix-Rouge me disant que mon frère était en vie, mais dans le nord de la péninsule, la personne à laquelle j'ai immédiatement pensé, c'était à ma mère, pas à moi. Mais quand on s'est vraiment rencontrés, je n'ai pas pleuré du tout. On a discuté de tout ce qui s'était passé. Je suis content d'avoir eu la chance de le rencontrer. J'ai le cancer et je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre ou si je pourrai le revoir. Mais chaque année, des milliers de membres de familles divisées meurent sans avoir pu rencontrer leurs proches. C'est extrêmement triste pour tous ces gens.
Justement, qu'est-ce qu'on dit à un frère qu'on n'a pas vu depuis 68 ans ? De quoi est-ce qu'on parle ?
On n'a pas assez de temps. On n'a que 12 heures en tout. On passe vraiment d'un sujet à l'autre rapidement. Par exemple, on parle des membres de la famille les uns après les autres. En rentrant chez moi, j'avais plus de questions à poser, mais c'était impossible sur le moment. Quand on regarde la presse, on voit que le pays est dans une situation économique catastrophique du fait de la pression internationale, et puis pour plein d'autres raisons aussi. Mon frère a 3 fils et 1 fille, et avec tous les petits-enfants, ça fait 20 personnes. Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer leur souffrance. Tout le monde souffre, mais toutes ces nouvelles me rendent triste pour mon frère.
Donc on vous voit la tenir avec émotion, les mains un peu tremblantes, le cadre qui tient la photo avec vos deux frères. Il y a aussi des photos avec le reste de votre famille autour de nous. Est-ce que vous avez espoir d'un jour que vos enfants puissent rencontrer les enfants de votre frère ?
Si l'unification se réalise d'ici quelques années et que des rencontres libres sont possibles, ma réponse est oui. Mais si le temps passe comme maintenant, ça ne concernera bientôt plus notre génération si on meurt tous. Les liens vont changer, ça sera différent. Moi, je me suis battu pour que ça arrive, mais regardez, les plus jeunes n'ont pas forcément envie de se rencontrer. Ça ne les intéresse pas vraiment.
Est-ce que vous essayez de transmettre ce souvenir de votre frère de l'autre côté, du fait que, voilà, que les deux Corées ont à un moment donné ont eu un socle commun ? Est-ce que vous essayez de transmettre ça à vos enfants ou vous sentez que chez eux, ça a complètement disparu, ce sentiment d'unité ?
Mes enfants savent que le Nord et le Sud sont une seule et même nation. Mes petits-enfants sont encore trop petits et on n'accentue pas notre éducation là-dessus. Pour moi, quelles que soient les conséquences économiques, nous devons absolument nous unifier dès que possible. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas bien. Un si petit pays divisé en deux avec des armes pointées sur l'autre, ça ne va pas. Si ça pouvait être fait avant ma mort, je serais comblé. J'espère juste que ça arrivera avant qu'il ne soit trop tard.
Un reportage de Nicolas Roca à Séoul, en Corée du Sud, où il y aurait encore près de 48 000 personnes, pour la plupart très âgées, qui attendent d'être tirées au sort pour revoir quelques heures un parent resté coincé au nord depuis 1953, l'année de la partition du pays. C'est une attente qui risque fort de se prolonger, étant donné le contexte diplomatique, comme Sung Jaenri Kim. Il n'y a pas eu de retrouvailles là ces derniers temps ?
Non.
Depuis 2018 ?
Non, depuis non.
Votre maman, est-ce qu'elle sait, elle, ce qu'elle aimerait dire ou demander à sa sœur si elle l'a retrouvée un jour ?
Je pense que, comme le monsieur l'a dit, en fait, si jamais si elle aura la chance d'être choisie et de retrouver pendant quelques heures ou 2-3 jours avec sa sœur, je ne pense pas qu'elle aurait assez de temps aussi pour parler de tout ce qu'elle voudrait parler. Mais je pense qu'elle serait déjà super contente de la revoir, de pouvoir la toucher, de serrer dans ses bras, même si ça n'a rien à dire. C'est déjà, je pense que ce sera pour elle, ce sera génial. Je pense que. Mais après, le problème, c'est qu'une fois qu'ils se retrouvent comme ça, ils n'auront plus la chance de revoir s'il n'y a pas de réunification. C'est ça aussi le problème.
Oui. Ce sont des retrouvailles éphémères et en plus avec une liberté de parole très relative. Hein. Les familles se retrouvent sous surveillance. Ça se passe sur 3 jours et il y a tout de même quelques heures où il y a plus d'intimité dans une chambre d'hôtel où on peut échanger des cadeaux, c'est ça, Kamsouk ?
Là, c'est ce qu'ils ont dit, mais ça se passe tellement vite aussi. Ils ont dit qu'il n'y a pas beaucoup d'intimité qui est protégée.
Vous disiez aujourd'hui qu'il y a Internet, mais les communications entre les familles au nord et au sud sont toujours interdites, que ce soit par téléphone ou autre, non ?
Je pense, oui. Aujourd'hui, j'ai 50 ans et en fait, la jeune génération, certaines personnes sont intéressées, bien sûr, mais le problème aujourd'hui, ils ont tellement de problèmes actuellement au niveau du travail, au niveau de l'instabilité de la société, leur place sur la société et tout ça. Donc, ils sont confrontés à des problèmes beaucoup plus réalistes que la guerre ou la séparation de générations précédentes.
Ça veut dire que les jeunes estiment que le coût économique d'une réunification, ça serait beaucoup trop élevé pour la Corée du Sud, qui est un pays plus développé ?
Non, mais je ne pense pas qu'ils pensent à ça, c'est qu'ils ont juste, actuellement en plus il y a la pandémie, donc l'économie ça va très très mal et puis les jeunes maintenant ils font tous, fait beaucoup d'études alors qu'ils n'ont pas de travail et c'est difficile.
Vous-même, votre héroïne dans votre livre, l'attente qui raconte l'attente de sa propre maman qui veut retrouver son fils. Cette héroïne, elle est écrivain, elle a dû quitter Séoul parce que l'immobilier est trop cher. C'est votre cas aussi ? Vous avez quitté la capitale pour ces raisons-là ?
J'ai 2 raisons d'avoir quitté la capitale. Oui, premièrement, c'est vrai que j'avais des problèmes aussi de logement parce qu'à Séoul, il y a vraiment un grand problème par rapport à d'autres capitales d'autres pays. Et deuxième chose, c'est que j'ai eu un chien qui a des problèmes d'angoisse et tout ça. Donc, j'avais envie qu'il soit heureux près de la nature. C'est pour ça que j'ai déménagé.
Vous habitez avec votre maman, comme ça ?
Non, en fait, j'ai proposé à ma mère de s'installer à la campagne, mais elle ne voulait pas quitter son quartier, comme je raconte ça dans le livre. Et elle voulait rester en ville, donc je vais aller la voir régulièrement, mais elle restait dans le quartier, près de son fils.
Parlez-nous de l'île où vous vivez, qui est pas loin de la zone démilitarisée, et donc de la Corée du Nord.
Oui, c'est vraiment pas très loin de Corée du Nord. Il y a la base militaire dans cette île, donc on entend très souvent des manœuvres. Et il y a des hélicoptères qui passent souvent sur le ciel. Et on entend très souvent des exercices de tir et des voitures, des militaires et tout ça aussi, je trouve très souvent, oui.
Oui, ça veut dire que l'histoire, la grande histoire de la Corée est sans cesse présente dans votre mémoire du fait de la proximité de la Corée du Nord, géographiquement parlant, pour vous.
Oui, c'est ça. En fait, quand j'étais à Séoul, je le sentais beaucoup moins. Mais depuis que j'habite à l'île Gangwon, en fait, je sens beaucoup plus la présence de la guerre et du danger, tout ça.
Officiellement, on le disait, la péninsule coréenne, dans son ensemble, utilise une seule et même langue, puisque c'est une seule et même nation. Pourtant, lors de ces retrouvailles, beaucoup de Sud-Coréens disent « mais en fait, on ne se comprend plus ». Alors bien sûr, il y a aussi le conditionnement politique des habitants de la Corée du Nord, mais le vocabulaire est très différent de celui que vous utilisez vous-même en Corée du Sud. C'est juste comme Souk ?
Alors, je pense que c'est juste parce que vous savez, moi j'ai vécu en France pendant presque 17 ans. Et à chaque fois après avoir vécu en France, quand je rentrais en Corée, j'ai eu beaucoup de différences de la façon de penser avec les habitants en Corée. Et je pense que 70 ans de séparation quand même, c'est, ça fait beaucoup de différence de pensée, de culture peut-être, de la langue aussi, oui.
Alors vous-même aujourd'hui, vous êtes quand même restée la plus française des artistes sud-coréennes comme Suk Jeon-ri Kim. Est-ce que vous nous avez dit au début de l'émission que c'est quand votre maman vous a retrouvé en France, vous a rejoint en France pour un séjour, vous avez eu du temps pour rester toutes les deux, que, qu'elle a commencé à parler, à faire remonter le passé. Finalement, il a fallu cet éloignement géographique de votre terre natale à toutes les deux pour que l'histoire familiale refasse surface ?
Oui, je pense. Et puis, deuxièmement, en fait, avant, j'étais trop jeune pour être prêt à écouter toutes ces histoires. Après avoir vécu seul en France, faire des études seul, et tout ça, ça m'a un peu fait mûrir peut-être mentalement. Et peut-être comprendre plus sur les femmes aussi, la vie des femmes. Je pense que à partir de ce moment-là, j'ai mieux compris ma mère en tant que femme, en tant que peut-être mère, en tant que voilà d'une personne qui a vécu beaucoup d'histoires.
Oui, justement, j'allais vous parler des femmes comme Suk Jeon-ri Kim parce que vous avez choisi de raconter le sort des familles sacrifiées à l'autel de la guerre, mais par la voix d'une femme, votre mère, hein, c'est quand même ce qui inspire le plus votre récit. Et dans votre précédent livre, Les mauvaises herbes, qui a été traduit en 14 langues, vous avez aussi raconté l'histoire taboue de votre pays à travers les récits de femmes. C'est l'histoire des femmes de réconfort, comme on les appelait, qui étaient contraintes de se prostituer pour l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Finalement, aujourd'hui, cette souffrance-là d'une nation, elle passe par la souffrance des femmes.
Bien sûr, en fait, c'est presque la génération de ma mère et sa sœur. Des femmes de réconfort.
Oui.
Et en fait, il n'y avait pas que des Coréennes, hein. Il y avait aussi Japonaises, aussi Chinoises, aussi il y a des Asiatiques pacifiques, hein. Il y avait même une Hollandaise, et je crois qu'il y avait même une Française à l'époque. Hein. Mm-hmm. Ces femmes-là, c'est pas elles qui ont la plupart du temps voulu partir et de se faire servir par l'armée japonaise. C'est souvent une fausse annonce comme quoi elles pouvaient gagner de l'argent et dans un autre pays ou à l'usine, etc. Et en fait, lorsqu'elles sont arrivées, c'est que c'était pas pour travailler dans une usine, c'était pour autre chose. Mais à partir de là, ils ne pouvaient plus être libres.
Ça s'apparente à des kidnappings. Votre héroïne, dans votre roman d'ailleurs, est contrainte de se marier très jeune pour ne pas être la proie des enlèvements pendant l'occupation japonaise.
Oui, c'est en vrai, c'est ce qu'elle m'a dit ma mère. Donc certains témoignages que j'ai utilisés dans ce livre, ça vient aussi de ma mère, de son témoignage également, oui.
Le déchirement des familles coréennes, évidemment, est beaucoup moins connu pour nous en Europe que celui des familles allemandes séparées par le mur de Berlin après la partition du pays entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Est-ce que quand vous viviez en France, vous vous êtes intéressé à ces deux Allemagnes avant la réunification, avant 1989 ?
Avant, j'étais pas vraiment intéressée, mais quand je suis arrivée en France en 1914, j'ai appris le français à Chambéry dans une école à l'université de Savoie à l'époque. Et dans ma classe de la langue, il y avait une Allemande de Berlin-Est.
Oui, Berlin-Est.
Oui, voilà. Donc, je comprenais pas très bien le français à l'époque, mais ce dont je me souviens, ça m'a tellement marqué. Elle nous a raconté dans la classe l'histoire, comment elle a vécu la réunification. d'Allemagne et ça m'a beaucoup resté dans ma tête. À l'époque, donc, j'ai fait un lien avec mon pays.
Oui, toutes les deux, vous aviez une histoire similaire, finalement.
Voilà, c'est ça, oui.
L'histoire de vos parents, leur souffrance intime, familiale, a été décidée par la guerre froide, par la partition du monde, hein, comme les familles allemandes à Berlin.
Oui, c'est cela. C'est du côté Corée du Nord, il y avait l'Union soviétique. Du côté Sud, il y avait les Nations Unies. Et c'est pas vraiment les Coréens qui ont voulu que le pays soit divisé en deux parties. Il y a d'autres pays, plus forts qui ont décidé cela. Ça, c'est vraiment dommage.
Kamsouk, vous êtes une romancière, vous êtes une dessinatrice aussi, parce que votre roman, c'est une bande dessinée. Je sais que vous attachez beaucoup d'importance au dessin à l'ancienne, parce que vous travaillez avec de l'encre, vous travaillez pas du tout sur un ordinateur façon bande dessinée coréenne moderne d'aujourd'hui, que l'on retrouve sur les smartphones, par exemple.
Oui, en fait, j'ai déjà essayé un petit peu. J'ai fait, mais ça me convenait pas.
Oui,
c'est pas,
ça vous plaît pas,
pas vraiment. Oui, oui, j'aime bien, comment dire, le procédure. J'aime bien le toucher de. J'aime beaucoup les traits en fait. Donc les pinceaux. Lorsque je prends le pinceau, au début aussi, c'est un peu gros comme ça. À force d'utiliser, ça devient vraiment, le pinceau que j'aime. Oui. Comme il faut, le trait, tout ça. J'aime bien l'irrégularité des pinceaux, mon geste et mon sentiment que tu pourrais transmettre sur le papier, tout ça. Ça, j'adore, en fait.
Transmettre sur le papier avec juste de l'encre noire et des pinceaux, des récits tout à fait tragiques. Hein. J'ai sous les yeux une planche où on voit des centaines de gens qui marchent sur les routes de l'Exode pendant la guerre entre 1950 et 1953.
Oui, oui. C'est en fait, il y a en Corée, il y a eu beaucoup de d'histoires contemporaines qui sont très tragiques. Et j'imaginais à ma mère et à la famille qui descend du nord vers le sud. Et sur la route également, il y a beaucoup de familles qui se sont perdues, qui se sont plus jamais retrouvées parce qu'ils n'ont pas pu avoir des moyens de retrouver.
Oui, d'autant qu'il y avait des bombardements.
Oui, comme il y a beaucoup aussi de monde sur la route, lorsqu'on est fatigué, on avance, on tourne et puis la personne, elle n'est plus là à côté. Et c'est comme ça qu'on est aussi, on s'est perdu. Et puis il y a eu des attaques, des bombardements et tout ça. Donc il y a certaines personnes qui courent à droite, d'autres à gauche. Donc c'est comme ça qu'on s'est perdu. Il y a beaucoup de familles qui se sont perdues sur la route aussi.
L'attente, une famille coréenne brisée par la partition du pays, c'est votre roman graphique, votre dernier roman graphique. Merci beaucoup Kamsouk Jenri Kim d'avoir été en ligne avec nous de Corée du Sud. Un dernier mot peut-être, qu'est-ce qu'il faut souhaiter pour la fin de vie de votre maman?
J'espère qu'avant que ce soit trop tard, au moins qu'elle pourrait avoir des nouvelles de sa sœur. Et puis nous, la génération suivante qui s'intéresse à notre passé et à la réunification des deux pays.
Voilà, un roman graphique à lire, bien sûr, pour les jeunes générations aussi dans votre pays, en coréen, Kamsouk.
Oui.
Merci à vous d'avoir été dans l'émission à distance chez 7 milliards de voisins. Très bonne soirée à vous en Corée du Sud.
Merci de m'avoir invité, Emmanuel. Et très bonne soirée à vous également. Je ne sais pas si c'est le soir ou la journée.
C'est le matin. Merci à vous en tout cas pour votre disponibilité.
Oui, merci. À bientôt, Emmanuel.
À bientôt. Merci comme Sukjendri Kim. La tante, une famille brisée par la partition du pays, un roman graphique en partie autobiographique. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voir les voisins et les voisines, les photos sur Instagram, sur le compte 7 milliards RFI. Et puis le diaporama des quelques planches de vos dessins comme Souk sur notre page Facebook. Lundi, 7 milliards de voisins, 40 ans, le nouvel âge d'or des femmes. Et bien, c'est à vous de nous répondre, mesdames, les voisines. Dites-nous comment vous vous sentez. Plus libre ou bien sous une certaine pression, vous avez la parole en tout cas sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. On compte sur vous, soyez nombreuses. On se retrouve lundi. Dans quelques instants, ce sera le journal, juste après Wild the Avener.
My tears and take care, cause this world goes crazy. Well, crazy. Some strength when I'm blowing on the heart of the city. Yeah, yeah, yeah. Stronger and stronger. Oh, day after day. Day after day. When the lights are down, in the streets feels wrong. Yeah, 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 yeah. Hatred spreads like a virus, and make me feel I've been known. Yeah, yeah, yeah. I am a speaker, I still a thing like clown. Well, yeah. A revolution for a change to come. This world is wild, wild, so wild, so wild.
Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins, Juliette Bro, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Toutes nos émissions sont disponibles, comme chaque jour, en téléchargement sur les plateformes en podcast.
Sept milliards de voisins, c'est fini.
Le goût du monde.